Il s'est approché d'elle et lui a planté un grand couteau dans la poitrine sans rien dire. Le mercredi 22 février dernier, un élève de seconde a tué un professeur du collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. L'élève en question a fait état ensuite du fait que quelqu'un aurait pris possession de son corps. Le procureur de Bayonne a déclaré pour sa part que l'individu a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Notre club des hommes en noir n'est pas réuni pour évoquer directement ce fait gravissime, mais plus exactement pour se poser la question, pour savoir si nous assistons au retour du satanisme dans notre société. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Guillaume de Tannoirne.
Bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on vous avait vu, monsieur l'abbé, c'est toujours donc un plaisir.
Quand on se fait rare, on se fait cher.
Et voilà, de vous donner la parole. Je reçois également le père Danziek.
Bonjour Philippe.
Absent aussi depuis pas mal de temps. L'abbé Grégoire Cellier, lui qui... J'allais dire de Cellier, mais bon. Grégoire Cellier, qui est un habitué de ce club.
Ben bonjour monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs, téléspectateurs et autres.
Et autres, voilà. Et madame Jeanne Smith. Chère madame, merci beaucoup.
Je ne suis pas un homme, mais ravi d'être là et de vous retrouver tous ainsi que les spectateurs.
Merci beaucoup donc de votre présence. Et pour démarrer cette émission sur un sujet grave et douloureux, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que finalement, comme le capitaine Haddock, on a, ou comme Tintin d'ailleurs, on a un ange gardien qui nous susurre les bonnes actions à faire et un démon qui essaye de nous entraîner dans des voies un peu différentes?
Alors je pense que oui. Moi je dirais oui.
Le père Danziek se lance. C'est beau la jeunesse.
Moi je dirais non.
C'est très bien ça.
Laissez-les parler, puis je mettrai la vérité.
Je pense que l'erreur théologique faite par Hergé, c'est qu'il fait aussi la même chose avec Milou. Donc ça c'est sûr que pour Milou ça il n'y a pas de...
Pour Milou ça ne marche pas.
Pour Milou ça ne marche pas, pour les bêtes ça ne marche pas. On rappellera à ceux qui nous regardent que autant la nature végétale agit par tendance, autant la nature animale agit par instinct, autant la nature humaine, elle, agit avec ces deux grandes facultés que le bon Dieu lui a données, l'intelligence et la volonté. Donc l'homme étant capable de faire œuvre de raison, il a une notion, une conscience plus ou moins éclairé, mais tout de même du bien et du mal. Et à cet égard-là, nous sommes... alors, j'attends impatiemment et avec une certaine crainte les avis précis et théologiques de mon confrère, l'abbé Tannoirne, mais autant nous pouvons être protégés, inclinés, encouragés dans l'exercice du bien par notamment notre bon ange, mais aussi, par exemple, lorsqu'on rentre dans une église, on peut supposer que ces murs qui transpirent de prières peuvent nous inviter à renouveler notre enthousiasme dans notre attachement au Christ et à son évangile. Autant, eh bien, nous sommes tentés, voilà, c'est ce qu'on dit le soir à l'office de compli, le diable, tel un lion rugissant, cherche à nous dévorer, et cherchant à nous dévorer, il cherche évidemment à nous incliner au mal, à nous faire le mal, ou à tout le moins déjà, et c'est le plus grand stratagème du diable, à essayer de nous faire perdre la conscience du mal, le fameux sens du péché. Non, elle me dit, c'est pas bien grave, resserre-toi une tartine de Nutella, resserre-toi un petit
c'est
whisky.
C'est pas bon le Nutella, voilà, donc, un whisky déjà, c'est plus intéressant.
Ça, c'est votre côté écologique, l'huile de palme, je sais que voilà, ça abîme
c'est
la palme.
Ah oui, oui. Je suis heureux de découvrir mon côté écologique. Monsieur l'abbé de Tannoirne.
Alors, vous n'avez pas défendu l'idée que chacun ait un petit diable pour l'incliner au mal. Or, ça me paraît quand même difficile de l'envisager.
Un petit diable gardien.
C'était l'idée du capitaine Haddock que nous soumettait Philippe Maxence. Je crois que nous avons un ange gardien parce que nous en avons besoin. Mais il serait absurde de considérer que nous ayons cette puissance du mal en nous pour nous faire le mal de façon systématique. Je pense que la vie humaine ne rencontre Satan que dans certaines conditions. Si on sait vraiment laisser aller si on a fait appel à Satan d'une manière ou d'une autre, il arrive. Mais foncièrement, l'homme reste bon. Rousseau a raison, l'homme est bon.
Quel provocateur.
Mais effectivement, la société n'est pas toujours à la hauteur. Mais au fond de nous-mêmes, il y a cet instinct du bien qui doit être le plus fort, parce que c'est lui qui nous juge.
Je fais appel au centriste,
Effectivement, l'abbé de Tannemoran a raison. Nous sommes orientés vers le bien par la nature que le bon Dieu nous a donnée, par la grâce qu'il nous propose. Et les sollicitations ne sont qu'extérieures. Les sollicitations du démon ou de l'ange gardien ne sont qu'extérieures. Elles nous poussent, elles nous invitent, mais elles ne nous motivent pas au sens propre. Nous avons certainement, ça c'est deux fois, un ange gardien chacun. Et le démon fait son travail. Il envoie là où il estime que ça sera utile. Il enverra effectivement des démons pour essayer de pousser dans le mal. Tout en rappelant l'histoire des pères du désert, où le père du désert voit apparaître les démons. Donc il voit la ville d'Alexandrie, je crois. Il y a un seul démon sur les remparts qui fume sa pipe parce qu'il sait que ça marche tout seul et que les gens se damnent tout seuls. Et il voit le monastère avec les moines entouré de démons qui essayent de les entraîner au mal. Mais donc effectivement, il n'y a pas un démon attitré, organisé, parce que ça c'est
au même titre que l'ange gardien.
Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Mais certainement, le démon fait son travail. Dont on verra les limites de ce travail. Heureusement, parce que le bon Dieu, il ne peut agir que par la permission de Dieu. Il ne peut pas agir, au-delà des limites que le bon Dieu lui donne. Mais donc, il fait certainement son travail. Donc, comme le dit Saint Ignace dans les règles du discernement des esprits, pour ceux qui vont déjà de péché en péché, le démon ne va pas faire grand-chose. Pour ceux qui luttent, il va essayer un peu plus de les titiller. C'est son job, c'est son travail.
Est-ce que, Jeanne, est-ce qu'on peut imaginer que le meurtrier de Saint Jean de Luz ait été... Comme il l'a affirmé d'une manière certaine, a été conduit, influencé par un démon.
Évidemment, je n'ai pas de réponse à cette question.
Je vous la pose d'ailleurs.
Il me semble que, en effet, on a un ange gardien. Chacun de nous a un ange gardien qui est un don extraordinaire de Dieu, qui devrait être notre meilleur ami finalement, et qui. À qui nous pouvons même demander des choses. Moi, pendant le confinement, il était impossible d'aller ici ou là. Je disais à mon ange gardien, ben, tu ne pourrais pas aller un peu devant le Saint-Sacrement, ce que je ne fais pas assez quand je peux y aller. Donc, c'est bien pratique d'avoir quelqu'un pour le faire à sa place. Le démon, je crois qu'il n'arrive dans la personne que lorsque cette personne a ouvert une porte d'une façon ou d'une autre. Et il me semble qu'aujourd'hui, les occasions ne manquent, hélas, pas, puisque on parlera au cours de cette émission du satanisme et de la présence de ces appels de Satan, que ce soit dans la littérature enfantine, spécialement dirigée vers les enfants d'ailleurs. Donc peut-être, oui, moi je ne suis pas théologienne et je ne suis pas non plus psychologue. Donc ce qui a réellement motivé le crime de Saint Jean de Luz, je serais incapable de le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de profanations, d'attaques contre des chapelles, de vols d'hosties, etc., sont très clairement motivées par une soumission, par le choix que fait la personne du démon. On l'a vu dans diverses procédures engagées par la GRIF notamment. Véritablement, c'est l'Alliance générale contre le racisme et pour la défense de l'identité française et chrétienne dont je suis la vice-présidente.
C'est la présidente avec beaucoup de vices ou...
Les deux. et en fait, il me semble véritablement qu'il y a une une présence visible du démon qui est aujourd'hui peut-être plus importante que jadis, où son absence justement facilitait son travail. Mais peut-être que le travail est maintenant tellement facile qu'il peut avancer sans se masquer.
C'est ce que disait un peu l'abbé Célie, qui veut prendre la parole.
Je suis bonheur que ce jeune-là ait une très forte schizophrénie, parce qu'entendre des voix, c'est typique de la schizophrénie. Mais je rappelle qu'assez récemment a été béatifiée une religieuse italienne qui a été assassinée par deux jeunes filles qui l'ont fait réellement au nom du satanisme, de façon claire, nette, précise. Et que ce soit la justice civile, que ce soit la justice ecclésiastique, tout le monde a reconnu que c'était pour offrir un culte à Satan.
Mais qu'est-ce qui permet de distinguer justement que dans un cas, que c'est la schizophrénie éventuelle, et dans l'autre cas, c'est vraiment un réel
Les jeunes filles ont préparé, organisé, elles voulaient faire quelque chose pour Satan, etc. Tandis que ce jeune qui entend des voix, encore une fois, c'est un signe assez manifeste.
Oui, c'est une partie de sa déclaration. Parce qu'il dit par ailleurs qu'il s'est senti possédé par un être extérieur.
Voilà, mais encore une fois, si on connaît les schizophrènes, c'est une chose qui, malheureusement, est assez courante.
Père Danzier, que vous vouliez...
Non, je voulais juste réagir, mais évidemment, je suis d'accord avec la bête noire. Cependant, quand je dis...
Ah, vous revenez au sujet...
On n'a pas d'ange mauvais qui nous serait attitré pour la simple et bonne raison que le prince de ce monde, c'est le prince du chaos. Il n'y a pas d'ordre dans le mal. Voilà, c'est ça qui est à la fois très rassurant. Il n'y a pas de cohérence, alors qu'il y a une cohérence dans l'ordre du bien et une cohérence dans l'ordre des vertus. Voilà. Donc quand vous grandissez dans une vertu, un peu comme si vous aviez un chapelet posé sur la table, prenez une vertu, ce qui serait un grain, vous l'élevez, cette vertu, et dans son sillage, en cortège, suivent les autres. Voilà. À l'inverse, comme le mal est, lui, le principe du chaos, heureusement, il n'y a pas une absolue cohérence dans le mal. Voilà. Donc ça nous rassure. Voilà. Après, pour Saint Jean de Luz, ce que disait Jeanne Smith, c'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir du moment où la présence de l'Église est moins frappante au sens propre du terme, vous voyez, à coup de bénédiction, à coup de messe célébrée, à coup de procession, eh bien l'empire du bien, non pas celui de Philippe Muret, mais l'empire du bien de la grâce, et lui-même, ça me nuise. À cet égard, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de le dire ici, j'ai des confrères qui exercent leur ministère en Afrique. Ce qui est symptomatique de ces univers géographiques, c'est que pendant des siècles entiers, ces terres n'ont pas été irriguées par la pratique des sacrements et de l'évangile du Christ. Voilà. Tous ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent ont en tête Christophe Colomb quand il arrive sur les rivages de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent une croix, la terre du Christ. Et ensuite, il y a des bénédictions, il y a des processions, etc. Or, quand cette présence efficace de l'eau bénite, des messes, de toute la communication de la grâce qui descend du ciel sur la terre est moins présente, eh bien, dans le même temps, la nature ayant horreur du vide, évidemment, il y a toute une forme de spiritualisme qui envahit notre société, soit par l'absence de Dieu, soit par son remplacement par des spiritualités sans grande structuration comme l'offre l'Église, voilà. Et surtout sans sa vérité, sans la vérité du Christ qui est la voie, la vérité et la vie.
Vous savez que votre voisin a une expérience africaine.
Oui, je le sais.
Ou une expérience africaine qui remonte à longtemps, mais... Et certainement, on ne peut pas rester dans ces pays sans avoir une expérience d'une forme de possession, d'une forme de tel événement extraordinaire, un feu qui prend tout seul, des choses qui arrivent. Mais je voudrais insister sur le fait que l'homme est capable de faire le mal. Il n'a pas besoin de Satan pour ça, et je crois que très souvent, il se décharge sur Satan du mal qu'il peut faire, histoire de se donner bonne conscience. Bon, foncièrement, on est quand même tous, je disais tout à l'heure, inclinés vers le bien.
Oui, vous êtes en train de dire presque le contraire.
On est aussi inclinés vers le mal. Mais vous savez que l'hérésie n'est pas le contraire de la vérité, mais l'oubli de la vérité contraire, comme dit ce cher Pascal. Il y a toujours une vérité contraire en christianisme, et c'est là où c'est la force de la théologie par rapport à toutes les philosophies, c'est qu'elle envisage la vérité contraire. Quelle est cette vérité contraire ? C'est que nous sommes menacés par l'endurcissement dans le mal. Non pas par le mal, mais l'endurcissement. C'est cette notion biblique très importante. Et là, je pense que cet endurcissement, il est plus ou moins satanique. Autant nous faisons le mal plus facilement que nous faisons le bien, même si le bien nous attire. Donc, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je déteste, dit saint Paul aux Romains chapitre 7. Mais le mal est puissant et nous pouvons nous laisser endurcir dans le mal au point d'être responsable de choses qui sont objectivement très graves. Et poignarder sa professeure, enfin, moi je trouverais un peu facile de dire a priori c'est Satan qui l'a investi, et quand il a parlé de sa petite voix intérieure, je me suis dit il prépare sa défense.
Peut-être, effectivement, c'est pas exclu.
Parce que foncièrement, c'est quand même sans aucune raison qu'il a planté ce couteau dans la poitrine de son professeur.
Qui laisse à penser qu'il y a peut-être une force, justement, qui le dépasse lui-même.
Voilà.
Parce que planter quand même un couteau, j'ai eu l'occasion de parler avec...
j'ai cru que vous aviez l'occasion de planter des couteaux.
Non. J'ai eu le pardon de vous couper, mais j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui a rencontré Monseigneur Hayé rapidement après ce drame, donc l'évêque de Bayonne, et qui lui témoignait, Monseigneur Hayé témoignait à cette personne, que ce qui avait saisi, frappé, impressionné tout ça, cette scène, cette séquence, c'est la froideur, en fait.
C'était de l'acte, oui.
De l'acte, il s'est levé, il est allé fermer la porte avec le verrou, il s'est tourné vers sa professeure, et il lui a planté le couteau en plein cœur, et ensuite... Il a rouvert la porte, il est sorti dans le couloir, il allait s'asseoir dans une autre salle de classe juste voisine, et il s'est assis sur une chaise vide, il a dit « ça y est, j'ai détruit ma vie, point ». Oui, il y a quand même quelque chose qui sort du cadre de la raison. Alors peut-être que cet élève était
Mais
fou et qu'on ne le savait pas.
Nous n'agissons pas de façon raisonnable la plupart du temps.
Peut-être pas jusqu'à ce point, quand même. Mais Jeanne voulait intervenir.
Non, mais c'était pour rebondir un petit peu sur l'Afrique. Familialement, nous avions un prêtre ami qui était missionnaire en Amazonie. Et lui avait des expériences absolument extraordinaires avec le sorcier du village qui l'insultait dans sa langue, dans son dialecte flamand d'origine. Et il disait très clairement qu'il pouvait voir dans les yeux des gens s'ils étaient baptisés ou non. Et il ajoutait que lorsqu'il allait... Ça, c'était dans... Moi, je n'étais pas née, c'est ce que m'ont raconté mes parents. Quand ce prêtre allait aux Pays-Bas dans les années 50 et 60, il affirmait clairement qu'il voyait une présence diabolique dans les yeux des gens, beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'il y avait l'abandon des normes de conduite, etc., une espèce de soumission sociale au règne de Satan. Il me semble qu'on ne voit que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même, sans parler de satanisme délibéré et volontaire, on est quand même dans une société qui a inversé absolument tous les commandements naturels qui nous sont donnés dans la Genèse, que ce soit le respect de la vie, que ce soit le respect de la distinction homme-femme, que ce soit, on pourrait dérouler la liste longuement. Donc on est vraiment dans un règne d'inversion. Et je vois le satanisme plutôt dans cela.
Je rebondis sur ce que vous dites, Jeanne, en vous donnant quelques chiffres sur le nombre de mineurs qui ont été mis en cause par la police pour des actes graves. On serait passé de 132 000 en l'an 2000 à 217 000 en 2017. Les tentatives d'homicide auraient augmenté pour cette catégorie de la population, donc des mineurs, hein, de 144% depuis 1996, les agressions de 124%, les agressions sexuelles de 315%. Donc une augmentation considérable du mal chez, encore une fois, chez les mineurs, hein, qui et c'est un peu ce à quoi on assiste tous. Alors, est-ce que Saint-Jean-de-Luz, ça rentre simplement dans ce cas, enfin, l'événement de Saint-Jean-de-Luz et le meurtrier rentre simplement dans ce cas d'une augmentation de la violence parmi les mineurs, ou est-ce que c'est vraiment une présence satanique, une possession satanique? L'abbé Cellier, vous voulez...
Je dirais que, encore une fois, le monde actuel se détourne de Dieu, se détourne de notre Seigneur Jésus-Christ, se détourne de l'Église, s'éloigne effectivement des moyens de la grâce, et donc forcément, si le royaume du Christ recule, le royaume de Satan avance, parce que c'est un phénomène naturel, et donc effectivement, il va y avoir une présence de Satan d'abord et avant tout dans le péché, parce que, si vous voulez, il ne faut pas se focaliser sur les manifestations extraordinaires et extérieures,
extraordinaire de ce
style, ouais. Mais d'abord et avant tout dans le péché, hein, dans la livraison au péché, et donc effectivement, ça désorganise l'homme qui, comme l'a dit l'abbé Tannouard, va au départ faire des premières fautes, et puis de faute en faute, entraîner dans l'endurcissement, ne voyant plus la réalité, à des choses toujours plus graves. Alors, avec en plus, si vous voulez, il y a tout ce qui est, que j'appellerais médiatique, qui comprend les jeux vidéo, dans lequel, pour les plus jeunes, la différence entre le réel et la fiction tend à s'estomper. Et donc, si vous voulez, vous avez des jeux qui sont en soi des jeux, si vous voulez, des jeux vidéo dans lesquels on tue des ennemis, etc. Mais il y a un moment où, si on en joue 10 heures par jour, on finit par perdre le sens de la réalité que, en fait, c'est juste un jeu, et que si on fait ça à une personne réelle, c'est dramatique et dangereux, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a une perte de contact avec le réel et une avancée dans le mal, et aussi, je dirais, aucune formation, aucune structuration de départ. Donc déjà, je dirais, s'il n'y a pas d'éducation simple, même naturelle, ça devient grave.
Il y a un mot qui a été utilisé par vous deux, c'est le mot « l'endurcissement ». Et en effet, je crois qu'il est un peu symptomatique de la question du mal. Simplement, peut-être pour éclairer ceux qui nous regardent et nous écoutent, il faut bien prendre conscience peut-être que cet endurcissement n'est pas seulement le fait du malin, mais il peut être aussi causé par Dieu lui-même. On le voit très bien dans notamment le passage de l'Exode, où il y a les plaies d'Égypte, où c'est Dieu, il y avait Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Alors quand on lit ça peut être un peu révolté avec notre conscience moderne. Ce qu'il faut bien voir, c'est en fait la nature humaine peut s'apparenter soit à une plaquette de beurre, soit à de l'argile. Le soleil arrive, le soleil de Dieu,
c'est
Dieu qui agit.
M'a porté,
voilà. Ouais. Donc le soleil de Dieu, sa grâce, son enseignement agit. Il se donne. Pour le cas de la plaquette de beurre, elle va fondre. Pour le cas de l'argile, elle va se durcir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, le cœur de l'homme, en fonction de son accoutumance au bien ou son inclination au mal, son choix qu'il fait au fond de lui, finalement, quand la vérité éclate devant ses yeux, ne va pas forcément le convertir, l'illuminer. Forcément, certaines fois, ça va l'endurcir. On le voit bien sur les questions ad extra, les questions morales, l'avortement, l'euthanasie, la contraception, les gens qui sortent avec, en étant tout à fait révoltés par rapport à l'enseignement de l'Église, et puis certaines fois même ad intra dans l'Église, sur des questions liturgiques, sur des questions catéchétiques, où on voit qu'en face, l'attitude consiste à s'opposer à telle ou telle option est une attitude d'endurcissement, comme s'il y avait une sorte de volonté féroce, parce qu'il y a une incompréhension résolue du message qui va être porté dans telle ou telle façon de faire.
Est-ce que l'enfer n'est pas l'impossibilité ou le refus de supporter l'amour de Dieu?
Moi, j'ai appris, en tout cas dans mon catéchisme, dans mes cours au séminaire, que le drame de l'enfer, c'est on sait qu'on est fait pour Dieu, on voudrait Dieu de tout notre cœur, et en même temps, il y a une sorte de haine vengeresse de Dieu comme moi, je...
ouais, c'est la nature. La nature créée est pour Dieu, la volonté délibérée est contre Dieu. Et donc c'est ce déchirement qui est au cœur de l'enfer. C'est-à-dire que je suis fait pour Dieu, tout mon être va vers lui, naturellement, spontanément, et en même temps je le refuse, et donc ma volonté
là,
est déchirée.
Donc c'est le côté de l'appétit du bien, là on va...
Mais il faut ajouter qu'en enfer, il n'y a que des volontaires. C'est pas Dieu qui joue les pions... à nous sanctionner.
Il n'y a pas de grille,
toujours, etc. C'est nous qui, dans le jugement particulier, face à Dieu, une fois l'âme sortie de notre corps, choisissons, c'est nous qui choisissons Dieu ou non Dieu, et qui peut-être ne supportons pas Dieu. Je prendrai un exemple qui m'avait beaucoup frappé à la sortie d'un mariage où il y avait pas mal de monde et où j'avais célébré la messe. Traditionnelle. J'ai une brave fille qui vient me voir et elle me dit « Cette messe, je la déteste. C'est un ordre. »
C'est un ?
Un ordre.
Un ordre.
C'est ordonné, quoi.
Je déteste cet ordre.
Ah oui, oui, bien sûr.
Alors, je ne dis pas qu'elle ira en enfer. C'est parce que c'est un peu tôt pour en être sûr. Mais si cette détestation de l'ordre la prend toute entière et donne sens à toute son existence, elle ne peut pas choisir Dieu. Ce n'est pas possible. Donc en enfer, il n'y a que des volontaires.
Il n'y a que des volontaires. Et qui ont choisi le désordre, alors, finalement.
Ils ont choisi le désordre.
Vous vouliez intervenir, Père
Mandel. Oui, je voulais... Peut-être aussi ceux qui... Voilà, aujourd'hui, nos contemporains dans l'univers catholique, en effet, je vous rejoins, peuvent facilement, vous l'avez dit tout à l'heure, mettre un peu... tout sur le dos du diable, voilà. Et même avoir le sentiment, qui n'est pas absolument faux, que le diable se trouve un peu partout, vous voyez. En tout cas, d'une façon plus conséquente, peut-être qu'autrefois. Bon, déjà, je pense qu'il ne faut pas absolument idéaliser le monde d'avant, parce que quand on lit saint François de Sales et qu'il va faire ses visites apostoliques, ses visites de ses curés, des paroisses qui sont dans les hautes montagnes, j'ai rien contre les habitants des Alpes dont on dit certaines fois qu'ils sont des crétins, mais il n'empêche que l'absence physique du prêtre, c'est ce que déjà disait le curé Lars, enlever un prêtre d'une paroisse, revenez 20 ans plus tard, ils adoreront les bêtes. Et là, le saint François de Sales est en prise fréquente avec des diableries, parce qu'il y a des pratiques un peu occultes qui se manifestent. Dans le roman de Saint-Loup, Plus de pardon pour les Bretons, c'est symptomatique. On voit vraiment que dans cette terre faite de prières, de pratiques religieuses très enracinées, il y a aussi des jeteurs de sorts, des rebouteux, dont leur puissance vient rarement de leur ange gardien, de Sainte-Anne ou de la Sainte Vierge. Non. Donc on voit qu'il y a toujours ce combat entre les puissances spirituelles bonnes, les anges et la grâce, et le diable. Et c'est ce qu'a dit l'abbé Cellier au tout début, je pense aussi, enfin c'est pas je pense moi, mais c'est un état de fait, que le diable agit spécifiquement là où se trouve le cœur nucléaire du bien. Donc un séminaire, un évêché, le Vatican, etc. Il y a eu cette histoire assez connue du cardinal Audi qui est dans ses appartements quand il était préfet de la congrégation pour le clergé, qui donne donc sur la place Saint-Pierre, et il demande à son secrétaire, il ouvre les portes, les fenêtres, et il dit à son secrétaire « Qu'est-ce que vous voyez ?» Allez, voilà, qu'est-ce que tu vois là? Dis-moi. Et il dit, bah, je vois la place Saint-Pierre. Enfin, voilà. Mais non, regarde bien, bah, les colonnades du Bernin. Enfin, non, mais regarde. Il dit, bah, qu'est-ce que votre éminence désire que je vois? Et il dit, bah, là, tu vois le trône de Satan. Vous imaginez, pour un secrétaire, un jeune prêtre, qui, un cardinal de curé qui lui dit ça, il dit, mais rassure-toi, il ne s'est jamais assis dedans. Hein. Voilà. Et c'est là où il faut rassurer aussi ceux qui nous écoutent, c'est que Dieu est plus fort. Mais il s'attaquera résolument aux institutions qui sont authentiques, le mariage chrétien, le sacerdoce catholique, la Sainte Messe, etc.
Comme dit la Sainte Écriture, en entrant au service de Dieu, prépare ton âme à la tentation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on veut faire le bien, le démon va faire son travail. Si on est déjà dans le mal, pourquoi il se fatiguerait? Le démon est un paresseux, il n'aime pas tellement le travailler. Non, mais si effectivement on veut faire le bien, Le démon va tenter de nous attaquer d'une façon ou d'une autre, mais bien entendu, les forces de la grâce, le secours de Dieu seront là à nos côtés pour nous permettre d'y résister, parce qu'évidemment, ce n'est qu'une créature et il ne peut agir sur notre âme que si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, il ne peut pas agir sur notre âme.
Je reviens quand même à ma question de départ. Est-ce que, malgré tout, vous avez l'impression que le satanisme aujourd'hui est en... En plein développement. Je voudrais juste citer deux faits. C'est que dans une cérémonie de remise de prix aux États-Unis, le chanteur Sam Smith, que je ne connais pas personnellement, mais était habillé en Satan et était entouré de danseurs qui exécutaient des rituels d'adoration.
Danseuses.
Des danseuses de rituels d'adoration satanique, que dans certains collèges américains, des clubs de Satan après l'école ont été mis en place à destination des enfants, même des enfants âgés de 5 à 12 ans. La présence de Satan, de cette manière-là en tous les cas, est de plus en plus visible dans notre société.
Oui, sans compter l'érection d'une statue à la mémoire de la juge de la Cour suprême aux États-Unis, Ruth Ginsburg. Ils ont fait une statue avec des cornes et des allures de démons. C'est-à-dire que l'imagerie démoniaque est plus présente qu'elle n'a été.
Mais alors, ça, c'est juste, c'est dû justement simplement à une imagination un peu trop fertile et qui a abandonné simplement les repères culturels chrétiens, ou est-ce que c'est conduit malgré tout par Satan ?
Aux États-Unis, il faut savoir que la présence de la Bible et que des références chrétiennes est beaucoup plus forte que dans notre pays. Et donc, si vous voulez casser les pieds aux vieux et tout ça, vous allez aller vers Satan. Bon, c'est une imagerie qui est facile à utiliser pour exaspérer des gens qui sont beaucoup plus imprégnés de la Bible que nous ne le sommes. Mais après... Forcément, plus le mal objectif, le mal du péché progresse, plus les manifestations, je dirais, périphériques, physiques, etc., du démon augmentent. C'est mécanique, si vous voulez. Je dirais, admettons qu'il y a 99% de choses spirituelles et intérieures et 1% de choses, de manifestations extérieures. Ben, si les choses spirituelles progressent, les choses extérieures vont progresser aussi.
Moi, je crois qu'il ne faut pas distinguer Satan et le cœur de l'homme à un moment. Le cœur de l'homme est toujours plus mauvais, il s'endurcit dans le mal, il va au-delà de toute raison et il est capable de tout. Est-ce que c'est Satan qui le rend capable de tout ? Est-ce que c'est Satan qui et cette espèce d'exemple de créature, au départ, Satan est une créature, donc une créature spirituelle, une créature qui a choisi librement non-Dieu, non-à-Dieu.
Non-à-Dieu, oui.
L'homme aussi a choisi librement non-à-Dieu dans le péché originel, et ce mal à quoi il a ouvert la porte... va toujours plus loin pour en faire un adversaire de Dieu. Est-ce qu'on a besoin toujours de Satan pour expliquer ça ? J'en suis pas sûr.
Vous n'en êtes pas sûr.
Si, oui, j'ai juste une question. Il me semble quand même que...
Non, la question, c'est moi.
pardon. Il me semble quand même que Satan, d'une façon étrange pour moi, apprécie qu'on l'encense, qu'on l'adore, qu'on le... Je me demande justement quelle peut être la satisfaction qu'il en tire, puisqu'il est dans le mal et la souffrance absolue. Tout ça me paraît très, très mystérieux.
C'est un genre-foutre.
C'est peut-être ça, la réponse. Et je pense que la réponse au démon, c'est un grand éclat de rire.
Alors justement, c'est là où je voulais en
venir. Exact.
Et c'est là où je voulais en venir. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour passer à une phase un peu positive dans cette émission face au mal et face aux démons? Et notamment, on sait qu'il existe des exorcismes. Est-ce que n'importe qui peut prononcer ces exorcismes contre Satan?
Il y a d'abord le grand éclat de rire. Je crois vraiment que Jeanne a raison et qu'elle est d'instinct plus théologienne que nous trois réunis.
C'est beau ça.
Non, c'est des souvenirs de lecture d'enfance.
Il vient de vous donner une médaille là.
Avec non, c'est important.
Alors, éclat de rire, très bien. Ensuite, que faut-il faire ?
Bon, je dirais d'abord, encore une fois, hein, il y a l'action intérieure, l'action extérieure. 99% c'est l'action intérieure, il y a 1% éventuel, c'est l'action extérieure. Contre le démon intérieur, c'est-à-dire les tentations, l'inclination au péché, il existe des moyens, évidemment, la prière, le recours au sacrement, la messe, la fuite des occasions de péché, la résistance positive quand devient la tentation, les moyens traditionnels et éternels.
La pratique de la cèse et des sacrifices, voilà, spécialement pendant le carême.
Voilà, etc. Toutes ces choses-là sont les moyens que le bon Dieu nous a donnés pour, effectivement, malgré, je dirais, le déséquilibre du péché originel, par sa grâce, avancer dans le bien et éviter le mal. Après, le démon que j'appelle extérieur, donc ces manifestations extérieures du démon, il existe effectivement des moyens de lutter qui sont l'exorcisme. Mais attention, le démon est une créature spirituelle extrêmement puissante et qu'il ne faut pas, je dirais, traiter par le mépris, etc. Il faut respecter les choses. Et donc, l'exorcisme, il doit être fait selon les règles de l'Église, avec le mandat de l'Église, par le ministre désigné pour cela. Cela dit, tout chrétien peut faire ce qu'on appelle le petit exorcisme, qui est une prière, dans la prière Saint-Michel, etc., dans lequel on demande l'aide de Dieu et de la cour céleste pour lutter contre les démons. Ça, effectivement, c'est une prière qui est tout à fait excellente et qui est toujours plus...
Mais ça, c'est le petit exorcisme.
Le petit exorcisme,
utile. Concrètement, les gens qui viennent à nous pour nous dire « je suis possédé », il y a vraiment 9 chances sur 10
qu'il ne le soit pas.
Il faut être...
C'est les règles du rituel. Les règles du rituel sont extrêmement sévères. Elles demandent une enquête extrêmement approfondie avant de se lancer dans un exorcisme.
Et tout prêtre peut exorciser, pardon.
Normalement, il faut avoir un mandat de l'évêque pour exorciser.
Voilà, c'est ce que j'avais...
Le pouvoir de l'évêque.
Voilà, avec encore une fois, désigné par l'autorité de l'Église, encore une fois.
Par rapport à la question antécédente qui rejoint la suivante, à savoir la banalisation du mal, en effet, on la voit, on l'observe, c'est-à-dire que ce soit des chanteurs, des musiques, des attitudes, des costumes, des façons de faire, en fait, on se rit un peu du diable, que ce soit Coluche déguisé en diable bouffon, ou maintenant avec des choses, vous voyez, la chanteuse Beyoncé a eu un moment, c'est sur Internet, on le trouve facilement, on la voit pendant un concert où, à un moment, elle a son visage qui se déforme, elle est possédée. Vous voyez, donc là, il est évident...
Elle met en scène une possession, donc.
Non, elle est elle-même saisie par le diable, pendant un de ses concerts. Voilà. Donc, on voit son visage qui se déforme et sa voix, ça dure une petite séquence, mais c'est assez connu. Ce que je veux dire par là, c'est que le mal, en effet, est banalisé aujourd'hui. Et pour lutter, puisque c'est votre question, comment on fait pour lutter ? En fait, faire ce que l'Église a toujours fait, c'est la banalisation du bien. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la pratique des sacrements, la confession, moi j'invite à ceux qui nous regardent, spécialement pendant le carême, voilà, peut-être vous avez du mal à aller vous confesser, c'est jamais agréable, mais il faut le faire. Voilà. Idéalement, il faut faire ses Pâques. Mais
c'est agréable après.
C'est agréable après, voilà, c'est ça.
C'est pas faux,
mais surtout, fondamentalement, je vous invite à le faire, parce que là, vous donnez une prise au bien de la grâce en vous, et donc vous vous détachez un peu plus du mal. Il y a la pratique de la confession, mais vous l'avez dit, la cèse, la prière, mais il y a aussi toutes les bénédictions. Est-ce que vous êtes posé, est-ce que votre maison est bénie ?
Vous aimez bien les bénédictions.
Et est-ce que ça fait longtemps que... Vous voyez, une promesse scout, vous voyez, c'est un sacramental. Enfin, quand vous faites votre promesse scout, vous donnez au bien une sorte de banalisation dans votre quotidien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les familles chrétiennes qui, quand il y a un de ses enfants qui se marie avec une personne qui vient d'un univers différent, ça peut arriver, c'est pas interdit, même s'il est quand même toujours plus convenable de se marier dans sa rue, ça évite un certain nombre de problèmes après, mais qu'importe.
Alors, on va pas entrer dans ce débat-là.
Ce que je veux dire par là, ce qui est très frappant, c'est que quand il y a une personne extérieure un peu à l'univers catholique authentique qui arrive dans une famille, elle se rend compte, et la famille elle-même catholique se rend compte, combien en fait, la vie de la foi irrigue complètement la structuration, le quotidien des réunions familiales, que ce soit la messe du 15 août, une procession, un pèlerinage à Chartres, etc., etc. Donc, si on banalise le bien dans notre vie, si finalement le bien nous devient comme quelque chose de très... une accoutumance, une saine accoutumance, eh bien, vous, vraiment, déjà, vous dressez des barrières qui seront beaucoup plus redoutables au diable de franchir, évidemment, dans votre quotidien.
La parole est à la Bécellier, mais ensuite on nous arrêterons.
Voilà. Ça m'est arrivé d'aller chez des personnes Donc je passais d'une pièce à l'autre parce que, je ne sais pas, j'avais une chose à faire, dans lequel il n'y avait pas de crucifix dans les pièces. Et j'avoue que j'étais très mal à l'aise. Je suis tellement habitué à ce qu'il y ait un crucifix dans chaque pièce qu'être dans un ensemble d'appartements ou une maison dans lequel il n'y a pas de crucifix, je parle de gens chrétiens, quoi, qui n'ont pas de crucifix dans leur maison. C'est assez...
Aujourd'hui, ils sont des bouddhas, il faut bien le dire.
Voilà, et on en voit de plus en plus. Madame, messieurs, merci beaucoup de votre participation et de vos explications sur un sujet... ma foi, quand même très difficile, puisque la question du mal reste au cœur de bien des doutes et de bien des questions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre Club des Hommes en Noir, avec la même équipe de vaillants participants. D'ici là, que Dieu nous garde. À bientôt.